Si vous allez le livrer ici sous vos yeux, vous allez voir le texte de ce matin, mais je vous encourage, si vous avez une Bible, de prendre plutôt votre Bible que le livret, parce qu'on va aussi voir d'autres textes. On va revoir le psaume 78, on va voir à un moment donné 1 Thessalonicien. Donc c'est toujours utile de pouvoir fouiller un peu dans votre propre Bible, sur votre application de Bible, sur votre téléphone, plutôt que de juste rester figé avec le texte que vous avez sous les yeux. Mais c'est là, bien entendu, notre texte principal ce matin, Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 31. Et on lit dans la version seconde 21. Verset 31. Donc c'est Jésus. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule. Il ne lui parlait pas sans parabole, afin qu'elle s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole. Je proclamerai des choses cachées depuis la création. Bon, nous sommes presque à la fin de cette année, n'est-ce pas? Comment allons-nous évaluer la portée de différents événements au cours de cette année-ci? Ce que ces événements signifient pour l'ensemble? Ce qui distingue, il me semble, un bon historien d'un autre, c'est la capacité de faire le tri de différentes voies qui existent sur le marché de la pensée et de situer un événement dans un contexte plus large de notre génération, de notre temps, afin de pouvoir déterminer la portée de cet événement dans cette perspective plus large. Quelle place est-ce que les historiens du 30e siècle accorderont-ils à l'ère Covid dans les années 20 du 21e siècle? Quelle place accorderont-ils à la tentative de l'Europe de sortir du nucléaire, à la puissance grandissante de la Chine? Synthétiser de façon responsable et de façon juste, c'est une tâche difficile en fait, car nous courons tous le danger de chercher des traits qui correspondent à ce que nous voulons que la thèse soit. C'est-à-dire, nous évaluons des choses avec une couche de lecture qui est rarement neutre. Exemple, les anti-vaccins cherchent des précédents historiques qui confirment le présupposé. Les pro-vaccins cherchent de même. C'est le cas pour tout débat politique, environnemental, religieux ou autre. Trop d'entre nous sont trop vite orientés à trouver ce que nous cherchons. C'est l'une des raisons qu'il faut toujours lire des points de vue opposants aux nôtres. Mais une bonne synthèse des données éclaire la compréhension, rend pertinent aujourd'hui les événements du passé. Et c'est bien ce principe-là qui est à l'œuvre dans la révélation biblique. C'est ça ce que nous voyons dans le psaume 78 que Samuel a lu pour nous, les premiers 8 versets. Ce psaume que Jésus cite ici dans Matthieu chapitre 13, dans le dernier verset, lorsqu'il dit « J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création. » Prenons un instant dans le psaume 78 de nouveau, si vous voulez bien. Vous pouvez avoir cela sous les yeux. Le psaume 78, nous l'avons dit, c'est une récapitulation de l'histoire de l'Ancien Testament jusqu'à l'époque où Asaph écrit le psaume. Mais ce psaume démontre la pertinence de ces événements de l'Ancien Testament pour la génération d'Asaph, pour le peuple de Dieu de l'époque. Et que dit-il? On a déjà vu verset 1, « Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. » Mais pourquoi il devait prêter l'oreille à ces paroles? Verset 2, « J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé. » Voilà la citation de Jésus. Et à partir du verset 9 de ce psaume, l'auteur du psaume parle en parabole. Comment? Car il fait des comparaisons, des contrastes, d'un côté entre la rébellion du peuple de Dieu au cours de son histoire, et de l'autre côté, la fidélité de Dieu au cours de cette histoire. Donc il tient les événements du passé comme un miroir devant le peuple de Dieu du présent, pour qu'ils apprennent de cela. Verset 3 du psaume, toujours, « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à nos enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance, les merveilles qu'il a accomplies. » Verset 7, « Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu. Ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » De là, alors, nous allons maintenant faire un saut de nouveau vers Matthieu chapitre 13. Jésus dit, verset 34 de notre texte, « Toutes ces choses en parabole à la foule, et il ne lui parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création. » Lui aussi, dans son temps, il a affaire à une génération désobéissante. Des pharisiens, des jeunes, dans l'évangile de Matthieu, qui cherchent à mettre Jésus à mort. D'autres personnes qui doutent de qui est Jésus. D'autres qui l'accusent d'être le diable, qui rejettent son enseignement. Et lui aussi, donc, il parle en parabole. Il fait des comparaisons entre des exemples de la vie de tous les jours et le royaume qu'il annonce pour révéler, pour éclaircir leur importance, leur portée pour nous. Les choses cachées, tout comme dans le psaume, ne sont pas forcément cachées dans le sens où les faits tant que tels ne le sont pas connus. Mais elles sont cachées dans le sens que jusque-là, personne n'a fait le bon tri de ces faits pour en tirer une bonne conclusion. Et Jésus fait cela. Il annonce de telles choses. De choses pas cachées en tant que telles. Dans son enseignement, ses miracles, sa mort, sa résurrection, son ascension, son retour, tous ont été prophétisés par avance dans l'Ancien Testament. Mais en la personne de Jésus-Christ, toutes ces choses arrivent à leur comble. C'est lui, Jésus, qui est venu. Non pas, il nous dit en Matthieu 5, pour abolir la loi et les prophètes, mais pour les accomplir. Alors, si déjà vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas, c'est la partie la plus difficile. Alors, on va rappeler Zoom. Il y a deux ans, qu'on a découvert pour la plupart d'entre nous, Zoom. Mais on avait tout le nécessaire pour que ça marche. Ordinateur, Zoom installé sur notre ordinateur, micro, caméra, mot de passe, Wi-Fi, lien qu'il faut. On avait tout cela. Tout cela existait. Mais il nous a fallu Benjamin, oui, ou quelqu'un d'autre, pour que ceux qui étaient perdus par rapport à Zoom puissent voir comment ça marche. C'était pas caché, mais il fallait quelqu'un qui met tout ça dans un ensemble. Okay, peut-être ça marche pas pour vous comme illustration. Jésus, bon, et le Benjamin s'il vous plaît, Jésus est la clé pour comprendre le royaume des cieux. Son enseignement révèle des choses que même les prophètes ont désiré comprendre. Verset 17 de ce même chapitre, qu'avait-il dit ? Déjà, je vous dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Quel magnifique privilège, on l'a déjà dit, mais on va le redire, pour chacun d'entre nous, d'être là aujourd'hui. Là, à l'époque, après la venue de Jésus-Christ, de pouvoir bénéficier de l'enseignement de Jésus-Christ, qui révèle ces choses cachées, qui met ça dans un ensemble, qui nous explique comment fonctionne le royaume. Vous savez, le prophète Ésaïe aurait aimé être parmi nous ce matin. Jérémie, Ézéchiel, Osée, Malachie, Jean-Baptiste, tous ceux qui auraient voulu être avec nous. Parce que combien nous sommes privilégiés de comprendre plus sur ce royaume de Dieu, annoncé au fil des années dans l'Ancien Testament, et qui arrive à son comble maintenant dans le ministère de Jésus-Christ. Donc vous êtes dans le bon endroit, chers amis, pour comprendre la foi chrétienne. Si vous voulez savoir plus sur l'espérance chrétienne, si vous êtes là plutôt en observateur pour le moment, alors vous pouvez comprendre ces fondements lorsque vous êtes à l'écoute de Jésus-Christ. Jésus lui-même, il est la clé pour entrer dans son royaume, dans sa maison, si vous voulez. Peut-être vous n'êtes pas, dans cette illustration, dans la maison, vous êtes plutôt à l'extérieur de la maison, vous observez un peu par la fenêtre, mais qu'est-ce qu'ils font là, à l'intérieur? Mais pour entrer par la porte dans la maison, c'est Jésus qui donne la clé. Ce que lui, il proclame, alors ça vaut le coup de l'entendre. De cogiter, de réfléchir. J'espère que vous faites cela le dimanche matin pour comprendre plus sur Jésus, sur cette foi, sur le royaume qu'il annonce. Cette semaine, il y a l'artiste belge Angèle qui a sorti son nouvel album que j'ai essayé d'écouter hier dans la voiture, intitulé 95. Symbole universel, d'ailleurs le titre 95, c'est chouette parce que c'est fait exprès de communiquer qu'elle est belge. Et selon un article que j'ai lu dans l'RTBF, Angèle a clairement envie de faire passer des messages sur sa génération et son ressenti. Je cite, « J'aime trouver le moyen de faire passer un message, sans que ce soit trop facile et avec des mots compliqués. Je veux parler de ce qui me tient à cœur tout en restant léger. Je suis engagé, mon engagement passera toujours par la musique. » C'est normal, elle a envie d'envoyer un message. Elle dit aux boomers qui ne comprennent pas la nouvelle génération. Je suis content de savoir que je ne suis pas encore dans la génération boomer, juste après moi. Et donc si vous êtes dans cette génération-là, alors écoutez bien ce qu'elle a envie de vous dire. Je voulais dire que l'on peut donner du crédit à la nouvelle génération. Cette génération, ce n'est pas uniquement TikTok et les réseaux sociaux. Les jeunes sont très engagés. Ça peut être intéressant de les écouter. C'est vrai, ce qu'elle dit. L'écoute mutuelle est une chose importante. Écouter, la nouvelle génération, tout comme on demande à la nouvelle génération d'écouter l'ancienne génération. Et ensuite, peser ce que quelqu'un dit. Angèle fait le buzz aujourd'hui, dans un sens, pour certains d'entre nous, dans la société belge. Mais elle ne nous aide pas à cerner les grandes questions de l'âme de l'être humain. Il n'y a que Jésus qui fait cela. Il proclame des choses qui répondent à ce besoin-là. Sur base de qui il est, sa personne, sa mort, sa résurrection. Ce qu'on trouve en lui, c'est infiniment plus riche, plus important que d'écouter qui que ce soit d'autre. Nous voulons écouter à nous Jésus-Christ dans ce qu'il dit, méditer la portée de ce qu'il dit, chanter le contenu de ce qu'il dit. Mon peuple, disait le psaume 78, verset 1, on le dit encore une fois, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Alors ça, vous serez content de l'entendre, c'est la fin de notre premier point. Jésus, la clé pour comprendre le royaume des cieux. Est-ce que nous écoutons Jésus-Christ? Alors ce matin, deuxième chose, nous allons parcourir deux paraboles, là où le sens primordial n'est pas difficile à cerner. Jésus se sert de deux choses très petites. Une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences, dit le texte. Un tout petit peu de levain, par rapport à, il paraît, une vingtaine de kilos de farine. Suffisamment pour faire à manger apparemment pour environ 100 personnes. Et il dit que oui, dans les deux cas, ça commence petit. Mais dans les deux cas, ça termine grand, très grand. En dehors de toute proportion de la petite taille au début, le grain de moutarde devient un petit arbre d'ailleurs, d'environ 3 mètres lorsque ça pousse au plus grand. Suffisamment grand, comme dit le texte, pour que les oiseaux puissent rester dans ses branches. Et le levain fait que la pâte se lève de façon conséquente. Chez nous, j'aime toujours pas faire la vaisselle une fois que Dawn a préparé le pain. Parce que ça déborde. Pas juste dans le bol, mais au-dessus du bol, par terre, et sur le plan de travail. Et c'est difficile de l'enlever. Et je dis, c'est pourquoi moi qui dois faire cette tâche-là? Moi, je veux bien faire le pain. Non, ça, en fait, non, je fais jamais. Le royaume des cieux, le royaume que Jésus annonce, qu'il amène, qu'il inaugure, ce royaume marche comme ça. Il nous dit, est-ce que nous comprenons cela? Ça commence petit, mais ça termine grand. Et cela, c'est un principe indispensable pour comprendre le royaume de Jésus-Christ. Le début n'est pas le même que la fin. Ce n'est pas que le royaume tel qu'on le présente dans certaines branches de la chrétienté, alors. Que si vous venez aujourd'hui à Jésus-Christ, vous pouvez tout avoir. Maintenant, plus de pauvreté, plus de maladie, plus de peine, plus de frustration, plus de violence, plus de péché, plus de mort. Non. Le royaume, dans toute sa splendeur, toute sa grandeur, est encore à venir. Nous vivons dans l'époque de la semence de ce royaume. Nous l'avons vu la semaine dernière. Mais cela ne signifie pas que le royaume des cieux n'est pas du tout présent parmi nous. Il l'est, mais c'est petit par rapport à ce que cela sera. De l'opposition, donc de l'indifférence, d'engagement rien qu'à moitié, les différentes réponses à la semence que nous avons vues, il y en a, il continuera à en avoir. Tous, même ici présents ce matin, ne répondront pas positivement à l'annonce de Jésus au sujet de son royaume. Mais cela ne signifie pas que le royaume n'est pas à l'œuvre. Non, loin de là. Car même si cela commence petit, cela terminera grand. Et pour appliquer cela aujourd'hui pour nous. J'aimerais décortiquer un tout petit peu la distinction qui existe entre chacune de ces deux paraboles. Car la première parabole parle surtout de la continuité qu'il y a entre ce qui est semé et ce qui en résulte. L'arbre, cette grande plante de moutarde, n'est rien que le fruit de cette petite graine semée. Tout ce qu'elle devient vient de cette petite graine semée. Ce n'est pas simplement donc que la plante est devenue grande, mais qu'elle vient de ce qui était semé. C'est la graine qui est devenue la plante. Et de même avec le royaume. Ce n'est pas que pour le moment, vous êtes supporter, disons, de Mans, un club un peu nul, désolé si vous venez de Mans, mais qu'un jour vous deviendrez supporter de Real Madrid, et à ce moment-là, vous aurez votre jour de gloire. Ou c'est pas que vous commencez en tant qu'apprenti comptable dans une petite société, mais un jour, ne vous inquiétez pas, vous allez devenir directeur de KPMG. Non, c'est que Mans, en tant que club, deviendra grand. Ils remporteront la Ligue des Champions un jour. Restez fidèles, donc, à Mans. Vous êtes dans le bon endroit. Alors, bien sûr, je ne parle pas de Mans. Je suis désolé. Mais nous parlons du royaume. Tenez bon avec le royaume de Dieu. Aussi minable que cela peut paraître aujourd'hui, malgré aussi la mauvaise herbe qui pousse, malgré la mauvaise gestion, malgré le peu de supporters actuels, c'est toujours ainsi dans le royaume de Dieu. Ça commence petit, mais cela devient grand. Pensons à Jésus lui-même, n'est-ce pas? Né, lui, dans un coin obscur de l'Empire romain, fils d'une paysanne, né dans une mangeoire même, réfugié en Égypte en tant que jeune, humble charpentier à Nazareth, rejeté, méprisé par ceux qui tenaient l'autorité, mis à mort sur une croix, enseveli dans un tombeau prêté par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il est devenu? Le roi des rois, qui règne encore aujourd'hui. Pensons à l'Église primitive. Les disciples de Jésus, sans érudition, sans une grande éducation pour la plupart. La plupart exerçaient ce métier de pêcheur, sans poste important dans les échelons de la société de l'époque. 11 des 12 sont mis à mort pour la foi, selon la tradition chrétienne. Et pourtant, l'Église chrétienne a explosé autour du monde de l'Antiquité, à travers ces 12 hommes. Sans que ça soit imposé, sans qu'ils aient dû se servir de la violence, parce qu'ils prêchaient le message du royaume de Dieu. Lorsqu'un moine allemand inconnu avait affiché 95 thèses sur les portails de l'église de Wittenberg en 1517, quelqu'un me corrige, merci, qui aurait pu imaginer l'impact que cela allait avoir? Lorsqu'en 1954, le parti communiste a expulsé tout missionnaire étranger de la Chine, qui aurait pensé que dans une période de 30 ans, lorsque les missionnaires pouvaient, en 1984, y retourner, que l'Église chinoise comptait déjà à ce moment-là plus de 21 millions de chrétiens baptisés. Même à Bruxelles, de nos jours, qui aurait pensé qu'une petite église iranienne implantée il n'y a que quelques années que nous soutenons dans la prière voit autant de conversions authentiques et de baptême dans le nom de Jésus-Christ? Oui, chers amis, même si le royaume commence petit, ça termine grand. Et ce royaume tourne autour de l'annonce de Jésus, sa mort, sa résurrection. Cela portera des fruits hors de proportion de sa taille actuelle. Car dans notre champ de mission, il se peut bien que le royaume reste encore de nos jours assez petit. Peut-être que vous êtes le seul chrétien, selon vous, actuellement, dans votre classe à l'école. Et ce n'est pas évident, n'est-ce pas, de se trouver seul Peut-être vous êtes le seul chrétien de ta famille. Et vous vous dites, comment ça se fait que ces personnes ne s'intéressent pas à Jésus-Christ? Vous êtes éventuellement le seul chrétien parmi tous vos collègues au travail. Oui, c'est petit, le royaume de Dieu. Et ce n'est pas évident lorsque c'est petit. L'Église, dans beaucoup d'endroits, semble être petite et fragile. Mais cette parole nous dit, continuons à semer le message du royaume, car c'est ce royaume qui terminera grand. Le message reste puissant, et à la fin, on sera bouche bée devant le trône de l'agneau, en train de contempler la magnificence de ce royaume, cette foule immense que personne ne peut compter, selon Apocalypse chapitre 7. Oui, dans cette parabole de la graine du moutard, Jésus fait allusion à une prophétie en Ézéchiel 17, où Dieu, face à un peuple rebelle et des responsables d'Israël qui refusent de lui faire confiance, qui cherchent des moyens du monde pour la survie d'Israël, Dieu, dans ce contexte-là, engage lui-même de planter un arbre. Verset 23 d'Ézéchiel 17. Je la planterai sur une haute montagne d'Israël. Elle portera des branches et produira des fruits. Elle deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux y feront leur nid. Tout ce qui a des ailes s'habitera dans ses branches. Donc il établira son royaume. Il y aura un fruit, un peuple établi par Dieu sous l'aile du royaume qu'il installe. Jésus annonce ce royaume-là. Alors, une autre illustration, juste pour marteler ceci. Pensons à un grand projet de construction publique qui engage des milliers d'ouvriers. J'ai un oncle qui, lui, est ingénieur civil, ingénieur géotechnicien, et à un moment donné, lui, il avait participé à la conception et la construction de l'extension de la ligne Jubilée pour le métro à Londres. Et cela comprenait la construction d'un nouveau station de métro en dessous du Big Ben à Westminster. Et l'espace créé pour cette station de métro et la taille, mon oncle m'avait expliqué une fois, de deux cathédrales, la taille de Saint-Paul à Londres. C'est vaste! Vaste. Alors imaginons que vous avez un tout petit rôle dans la construction de ce station de métro. Tu travaillais dans la société qui fabriquait des vis utilisées pour la mise en place des ascenseurs. Tu opérais l'une des machines qui fabriquait une centaine de vis. Tu faisais cela dans une usine loin de Westminster. Et puis, on t'invite pour le grand jour d'ouverture de ce projet. Et tu vois ta contribution, ta petite contribution, vous de l'ensemble. Et t'es là et tu dis, waouh, c'est impressionnant. Oui, peut-être ma pierre n'est que petite, mais chacun apporte sa pierre à l'édifice dans le royaume de Dieu. Donc ne nous décourageons pas. C'est ça le message de cette première parabole. Et deuxième message, c'est « Ne nous isolons pas ». La deuxième parabole, c'est celle du levain et de la pâte, mais l'accent plus sur cet aspect transformateur du levain. Ce n'est pas comme c'était pour la graine de moutarde que le levain devient la pâte, mais que le levain joue le rôle de transformer la pâte, d'influencer tellement la farine que la pâte se lève. Et c'est ainsi, alors que la croissance dont parle cette parabole a lieu par un effet de transformation d'hommes et de femmes tellement envahis par la bonté et la grâce de Dieu, par la puissance du message de Jésus-Christ, que leurs vies ne sont plus jamais les mêmes. Au lieu d'être centrés sur eux-mêmes, ils sont captivés par un amour pour Dieu et par conséquent, un amour aussi pour son prochain. Lorsque Paul écrivait aux Thessaloniciens, donc dans 1 Thessalonicien, qu'avait-il dit à leur sujet? au verset 3 de 1 Thessaloniciens, nous nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous. Nous nous souvenons de tout ce qui vous caractérise, l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la persévérance de l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, il dit, la parole a retenti de chez vous, pas seulement en Macédoine et à Caïe. Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Pourquoi? Car, il dit, à partir du verset 9, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons trouvé chez vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir comme des esclaves un Dieu vivant et vrai pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors, est-ce que dans ce texte-là, vous entendez la combinaison puissante du message annoncé et les effets transformateurs que ce message avait auprès des Thessaloniciens? Contenu, Dieu, vivant et vrai, Jésus, le Fils, qui nous délivre de la colère à venir. Cela constitue le message annoncé. Mais cela a eu un effet. Ils se sont tournés vers ce Dieu. Ils se sont détournés des idoles. Ils se sont mis à servir Dieu. On se rappelle verset 3 de l'œuvre de leur foi, le travail de l'amour. Alors, on se met juste dans la peau brièvement d'un chrétien à Thessalonique. Qui est dans la Macédoine. Et donc, on va appeler ce chrétien Marcus. Et il est en train de rendre visite à son cousin à Rome, c'est le 1er siècle, lorsqu'il doit faire un saut vers la capitale pour des raisons commerciales. Et donc, c'est Marcus, le chrétien, avec son cousin Claudius, on va l'appeler. Ils mangent ensemble, après une journée de négociation au marché. Et Claudius se lance. « Tiens, Marcus, je te vois un peu moins concerné qu'avant de boire comme tu faisais lorsqu'on était jeune. Qu'est-ce qui te prend là ?»« Ah oui, Claudius, tu as raison. Je bois effectivement moins qu'avant. Car tu sais quoi, en fait, j'en ai plus besoin. J'ai trouvé un contentement en tant que disciple de Jésus-Christ. » Quoi ? Tu me parles de disciple de Jésus-Christ, c'est étrange cela, parce que tu sais quoi? J'ai appris que l'un de mes esclaves se dit également ce disciple de Jésus. Dario, est-ce que je t'ai vu échanger avec lui lorsqu'on entrait dans la maison après cette journée de travail? Il ne faut pas exagérer là, comme Marcus. Oui, Claudius. Dario, cet esclave, il s'appelle Philippe. Il est connu, tu sais, dans une petite église ici à Rome. Et un membre de sa famille se trouve dans mon assemblée à Thessalonique. Et il m'avait dit qu'il est dans ton service. Donc oui, je l'ai cherché. Bah, dis donc, tu t'intéresses à tout le monde maintenant, c'est ça? Oui, effectivement, car figure-toi, j'ai découvert que le Dieu Tout-Puissant s'intéresse à moi, à tout être humain, aussi bien Philippe qu'à toi, Claudius, c'est à moi. Et Jésus, bien qu'il soit le roi attendu par les Juifs, c'est sacrifié pour toute personne, tu sais, qui se tourne vers lui, pour que nos fautes lui soient pardonnées, pour que nous fassions partie, peu importe notre standing social, de son royaume. C'est extraordinaire, tu sais, ça, Claudius. Bon, écoute, je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Tu viens écouter alors le message de Jésus? C'est dimanche prochain, cela a lieu tout côté, à côté du boulanger. Avec plaisir. Ce qui frappe pas Claudius dans cet exemple, okay, là c'était un exemple imaginaire, hein, vous avez tout compris, c'est la vie transformée de son cousin. À un point où, oui, lui, il est intrigué d'en découvrir plus pour lui-même. C'est ainsi que le royaume grandit, par des vies transformées. Il y a une conséquence bénéfique dans la vie du croyant. Et oui, à une plus grande échelle encore, une fois que plusieurs vies sont impactées, touchées par le message du royaume de Dieu. Et c'est une transformation qui a lieu de l'intérieur. Il ne s'agit pas ici d'un royaume terrestre qui exerce un pouvoir terrestre. Ce n'est pas forcément visible dans le sens que nous pouvons déterminer à n'importe quel moment qu'il est là ou là. Mais c'est toutefois présent d'une façon tangible, car il y a du fruit. Différentes personnes sont transformées, et cela au bénéfice des autres. Et de telles transformations sont puissantes. Cette transformation continue à bénéficier les autres. Tel est l'impact de cette transformation. C'est cela qui fait que, encore aujourd'hui, des chrétiens au Nord Kivu que nous soutenons bâtissent des hôpitaux, dont Samuel a mentionné dans notre passé également, des maisons médicales, des centres pour des lépreux, pour des veuves, même un institut supérieur technique médical que nous soutenons directement. Ce n'est pas là, hein, la mission de l'Église, de bâtir des hôpitaux, de prendre soin des pauvres. Alors, la mission de l'Église, c'est de semer la parole, nous l'avons vu la semaine dernière. Mais cette parole œuvre et témoigne de sa puissance par la transformation du cœur de l'homme. Et cela attire les autres. Cette parabole, peut-être vous l'avez remarqué, se trouve au milieu de la parabole de la mauvaise herbe et de son explication qui suit. Et il se peut que nous pouvons mettre trop d'accent sur le fait que la mauvaise herbe va pousser en même temps que la bonne semence, et cela peut nous rendre trop négatifs, trop pessimistes par rapport au monde. Que tout tournera mal, qu'il n'y a jamais d'espoir. Mais il faut effectivement être réaliste par rapport à ce monde, le contexte dans lequel le royaume est semé. Le ciel ici-bas nous échappera toujours. Mais ne soyons pas découragés par rapport à cela. Frère ou sœur chrétien ici présent ce matin, car Dieu est à l'œuvre et sa grâce peut toucher n'importe qui. Elle est puissante. Donc ne nous isolons pas. N'ayons pas peur de nos amis à l'école, de nos collègues au travail, des membres non-croyants de notre famille. La grâce de Dieu toucher tout le monde. Ne faisant rien qu'un commentaire négatif sur le monde actuel, ne nous isolons pas, mais de manière, dans un sens normal, de tous les jours, soignons cette influence pour le bien autour de nous. Les chrétiens peuvent parfois ressembler à une personne qui se sent harcelée par les médias à sa porte, on voit ça parfois à la télé, qui est un peu mal à l'aise d'être là, qui se sent un peu forcé de répondre aux questions de l'intervieweur, qui cherche à tout prix à rentrer chez lui, fermer la porte, trouver le calme et la paix. Et parfois, on a ce regard-là par rapport au monde. Mais nous devons vivre notre vie chrétienne dans le monde. Et cet effet transformateur du royaume va avoir son effet. On va prier, chers amis, dans un ensemble. Je vais terminer en vous lisant 1 Pierre, chapitre 2, verset 12, qui nous dit ceci. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, nous te louons, Seigneur, pour Jésus. Te louons dans un sens pour la simplicité de son enseignement, mais aussi pour ça, son profondeur. Voyons notre besoin d'être à l'écoute de Jésus, de comprendre à quel point il proclame ces choses cachées. Il révèle comme tout tourne autour de lui. Et nous voulons, Seigneur, prendre à cœur ces exhortations de ne pas être découragés dans nos propres contextes par rapport à la taille du royaume, et de ne pas nous isoler, de ne pas penser qu'on doit se protéger de façon à ce que les autres ne sont pas en mesure de voir cet effet transformateur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pensons à cela lors de cette période à Noël, nous avons envie que d'autres découvrent le Christ. Nous te prions, Seigneur, alors que nous soyons nous-mêmes porteurs de ce message de Christ. Et cela aussi par une vie transformée. Sois à l'œuvre pour ta gloire.